livre du Lévitique, chapitre 13, verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur Aaron ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. » Je vous propose que nous reprenions la lecture au verset 12, même chapitre, le verset 12. « Si la lèpre fait une éruption sur la peau et couvre toute la peau de celui qui a la plaie, depuis la tête jusqu'aux pieds, partout où le sacrificateur portera ses regards, le sacrificateur l'examinera, et quand il aura vu que la lèpre couvre tout le corps, il déclarera pur celui qui a la plaie. Comme il est entièrement devenu blanc, il est pur. Mais le jour où l'on apercevra en lui de la chair vive, il sera impur. Quand le sacrificateur aura vu la chair vive, il le déclarera impur. La chair vive est impure, c'est la lèpre. Si la chair vive change et devient blanche, il ira vers le sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera et si la plaie est devenue blanche, le sacrificateur le déclarera pur. Celui qui a la plaie, il est pur. » Et puis au chapitre 14, je vous propose de reprendre la lecture au verset 1er, chapitre suivant, à partir du verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Voici quelle sera la loi pour le lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié deux oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera sept fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre, puis il le déclarera pur, et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Celui qui se purifie lavera ses vêtements, rasera tout son poil, et se baignera dans l'eau, et il sera pur. Ensuite, il pourra rentrer dans le camp, mais il restera sept jours hors de sa tente. » Voilà, nous avons donc un extrait ici de la loi que Moïse avait donnée au peuple d'Israël, loi qui était censé réguler sa vie, non seulement pendant ses déplacements dans le désert jusque dans la terre de Canaan, que Dieu lui donnait en héritage, mais loi qui était appelée à réguler sa vie, ses pratiques religieuses, sa foi et chacun des domaines de sa vie par la suite, une fois qu'il se serait établi dans cette terre promise. On voit ici que cette loi particulière que Moïse a donnée concerne le cas où un Israélite se découvrait atteint d'une plaie de lèpre. Alors vous allez dire, quel rapport avec la Pâque, hein, quel rapport avec Pâque? Bien, nous allons le voir. Mais on s'aperçoit tout de suite que la loi de Moïse, dans ses commandements, dans les domaines qu'elle embrassait, était remarquable parce qu'elle touchait absolument tous les domaines de la vie des Israélites. C'était vrai du domaine, bien sûr, de l'adoration, c'était vrai du domaine spirituel, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », le domaine moral, avec les commandements qui touchent les relations avec les semblables. Il y avait aussi toutes sortes de commandements qui touchaient le domaine, je dirais, cérémoniel, ce qui avait trait aux ordonnances relatives au tabernacle et aux services qu'on y rendait tous les jours. Et puis il y avait aussi des lois qui touchaient la vie civile, le domaine militaire, le domaine juridique, et ici même une loi qui touchait le plan de l'hygiène et le plan médical. Ça nous montre finalement que lorsque Dieu établit avec nous une relation, eh bien, il souhaite intervenir dans absolument chacun des domaines de notre vie. Que chacun des domaines de notre existence puisse lui être soumis et bénéficier aussi de son aide, de son secours, de sa présence. Une loi qui touchait absolument tous les domaines de la vie des Israélites et du peuple d'Israël. Donc, ici, une loi qui concernait le cas où une personne en Israël était atteinte de la lèpre et, bien sûr, une loi qui montrait également comment cette personne pouvait en être purifiée. Dans la Bible, vous le savez très certainement, mais la lèpre est très souvent une image du péché. Elle nous parle du péché, elle nous parle de la manifestation visible du péché. Quelqu'un qui était atteint de lèpre en Israël, bien ça nous parle du fait que voilà, quelqu'un découvre le concernant ou se découvre concernant quelqu'un cette triste réalité du péché, du mal qui habite dans notre cœur, qui nous rend coupables, qui nous condamne, et c'est une réalité dont parle bien sûr abondamment la Bible, et elle nous concerne tous. Elle nous concerne tous, cette réalité, puisque la Bible rend ce témoignage que tous ont péché. Nul n'est juste. Non, il n'y a pas sur la terre d'homme qui pratique toujours ce qui est bien, qui ne pêche jamais, dira l'Ecclésiaste. C'est une réalité triste, mais inévitable et réelle. Nous la découvrons dans notre cœur, dans notre vie, dans la vie des hommes, dans leurs pensées, dans leur mobile et dans la manière dont ils se comportent envers Dieu, tout d'abord, puis les uns envers les autres. Alors, quelques pensées sur cette lèpre. On découvre qu'elle est effectivement une image appropriée du péché. Bien, la personne atteinte de la lèpre en Israël était privée de l'accès à Dieu. Vous savez que dans le camp d'Israël, il y avait cette tente de la rencontre, la tente d'assignation, le tabernacle. Dieu avait dit, ils me feront une demeure et j'habiterai au milieu d'eux. Et cette tente parlait du fait que Dieu, qui habite dans une pureté inaccessible, bien manifester dès ce moment le désir de se révéler aux hommes, d'établir avec eux une relation, une communion véritable. Et ce sanctuaire ou tente de la rencontre, bien sûr, préfigurait le salut par Jésus-Christ, le fait que Christ descendrait pour nous ouvrir l'accès jusqu'à Dieu. Mais celui qui était atteint de la lèpre, bien entendu, il n'était pas question pour lui d'entrer dans le sanctuaire. Et cet accès à la présence de Dieu lui était donc fermé, et c'est vrai que le péché, bien, il nous coupe de Dieu. Le péché nous coupe de Dieu, il nous sépare de lui, il nous empêche de bénéficier de tout contact avec lui, de toute communion avec lui, de connaître quoi que ce soit de sa gloire, de sa pureté, de sa sainteté, de sa force. Toutes ces choses nous sont voilées, le péché nous en prive, n'est-ce pas ? Dieu dira par Ésaïe, eh bien, ce sont vos péchés qui vous cachent ma face et empêchent le contact d'avoir lieu. Le péché empêche toute connaissance réelle de Dieu. Je ne parle pas, bien sûr, ici d'une connaissance intellectuelle, théologique même. Des gens atteignent dans ce domaine parfois des degrés impressionnants de connaissance, mais tant que la question du péché n'est pas réglée, il ne peut y avoir aucune connaissance réelle, aucune connaissance de la personne, de la sainteté, et de ce qu'est Dieu dans sa gloire. Et je dirais même, il n'y a pas d'envie de Dieu. Le péché empêche dans le cœur de l'homme toute envie de Dieu de se manifester, et à cause du péché, eh bien, le cœur de l'homme va prendre plaisir en toutes sortes d'autres choses, va placer ses intérêts dans des domaines tout à fait différents, mais il n'y a ni crainte, ni connaissance véritable, et de la même manière que le péché, que la lèpre, n'est-ce pas, couper tout accès dans la présence de Dieu dans son sanctuaire. Puis, la personne atteinte de la lèpre était également privée de toute communion avec ses semblables, puisque, vous pourrez le relire dans le chapitre 13, Dieu avait ordonné par Moïse que l'Israélite atteint de la lèpre déchire ses vêtements. Il devait se promener tête nue, se couvrir la barbe, c'était un signe de deuil et de désolation. Et il devait même prévenir de sa simple présence en criant « impur ». Je suis impur. Il portait sur lui une marque d'impureté qui l'amenait à habiter seul et hors du camp. C'est-à-dire qu'il y avait, à partir du moment où la lèpre se déclarait, une coupure, une solitude aussi qui se mettait en place, puisque le lépreux ne pouvait pas habiter au milieu de ses semblables et ne pouvait pas habiter au milieu d'Israël. Et de la même manière, eh bien, on s'aperçoit que le péché nous coupe et nous prive de la communion avec nos semblables. C'est vrai dans le monde qui ne connaît pas Dieu, que de drames, que de solitude, que de détresse parfois, ou peut-être seul même au milieu d'une foule, à cause du péché, à cause du fait que la communion avec Dieu n'est pas là, que que de ressentiment parfois, que d'amertume, parce que la solitude c'est ça aussi, l'absence de communion avec ses semblables porte certains à laisser remplir leur cœur d'amertume et de toutes sortes de sentiments mauvais. Et puis pour l'Église, je dirais que c'est vrai également, le péché coupe de la communion fraternelle, le péché empêche d'en bénéficier, il n'y a plus de plaisir à se retrouver avec les gens de la maison de Dieu. Voilà, c'est l'œuvre du péché, hors du camp. La lèpre dont il est question dans la Bible n'était pas apparemment la forme de lèpre que l'on connaît actuellement. Vous avez sans doute vu un jour à la télévision peut-être ces terribles images d'hommes ou de femmes dans des pays défavorisés atteints de la lèpre, où les membres tombent littéralement en pourriture. Il semblerait que ce n'est pas la forme de lèpre qui se déclarait au sein d'Israël et dont la Bible parle. Mais si la lèpre dont il est question dans la Bible ne conduisait pas directement à la mort, puisqu'on voit par exemple que Naaman, ce général syrien que nous connaissons, quoique fort et vaillant, était atteint de lèpre et pourtant semblait toujours valeureux et en état de livrer des combats et des batailles. Bien, la lèpre, je dirais indirectement, y conduisait quand même, parce que on pense aussi à ces pauvres lépreux qui, lors du siège de Samarie, vont faire ce constat. Si nous restons si nous restons à l'extérieur du camp de nos assiégeants, nous mourrons. Et si nous allons dans la ville, la famine est dans la ville et nous mourrons aussi. Finalement, la lèpre conduit inexorablement à la mort. Et la Bible rend ce témoignage que le salaire du péché, c'est la mort. Le fait d'être privé de la présence de Dieu, c'est déjà la mort qui agit. Et les conséquences du péché sont donc à prendre avec beaucoup de sérieux, puisqu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, chacun rendra à Dieu compte pour ses œuvres, et les conséquences du péché, eh bien, elles sont éternelles, et la lèpre nous amène à prendre ces choses en considération. Un cas de lèpre en Israël ne devait pas être tenu pour rien. Puis enfin, la personne atteinte de lèpre, bien, elle ne pouvait pas, en aucun cas, être guérie par des moyens humains. En Israël, il n'existait pas de remède contre la lèpre. Pourtant, Dieu n'avait rien contre la médecine, Dieu n'a jamais rien eu contre elle. D'ailleurs, on pense qu'un évangile, au moins, a été écrit par un homme dont la profession était des médecins. C'est Luc, le médecin bien-aimé. Le Seigneur lui-même, dans ses paraboles, parlera de ceux qui, étant malades, ont besoin de médecins. Voilà que vous voyez bien que dans la Bible, rien ne s'oppose au recours à la médecine, et nous bénissons Dieu pour les progrès de la médecine, pour les avancées spectaculaires que la science a apportées dans ce domaine. Mais la médecine a aussi ses limites, et il n'y avait pas de remède en Israël à la lèpre. De la même manière, il ne saurait exister, il n'existe aucun remède humain venant de la terre pour le problème du péché. Il est impossible, par exemple, que par des moyens religieux, par des aumônes, par des œuvres, des pèlerinages, des cérémonies, des prières, des offices, des souffrances même, quelqu'un puisse se défaire de la marque du péché, de sa culpabilité, le recours à la médecine, à la psychothérapie, je ne sais pas, peut amener sans doute un soulagement temporaire, mais ne saurait jamais agir à la racine du mal. En Israël, seul Dieu, pouvait étendre sa main sur un lépreux et le délivrer de son mal. Et bien sûr, c'est ce qui va nous préoccuper maintenant, nous allons nous pencher, c'est ça qui est intéressant ce matin, c'est de découvrir de quelle manière Dieu agissait et manifestait finalement son action lorsque un lépreux était guéri de sa lèpre. Béni soit Dieu pour Jésus-Christ qui a été envoyé pour ôter, pour venir à bout, pour résoudre la question du péché. On voit dans l'Écriture, par exemple, que dans le livre des Nombres, Vous savez que la propre sœur de Moïse, Marie, a été pendant un temps lépreuse. Ça a duré peu de temps, mais elle a quand même été frappée de lèpre. Qu'est-ce qui s'était passé ? Bien, figurez-vous qu'elle avait murmuré, Marie. Elle avait murmuré avec Aaron. Il semblerait que Moïse ait pris une femme éthiopienne, on n'en sait pas plus. Et là, Aaron, qui participait avec Moïse à cette glorieuse vocation qu'il exerçait au sein d'Israël, bien, c'est je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Voilà, ils se sont parlé avec Marie, puis ils se sont mis à murmurer contre Moïse, et ils se sont dit, et ils ont dit, mais Moïse, est-ce que Dieu parle seulement par Moïse ? Est-ce que Dieu ne parle pas par nous aussi ? Et c'était vrai que Dieu parlait par Aaron, c'est même Moïse qui avait insisté pour qu'il en soit ainsi. Hein ? Et Marie, on s'en souvient, après la victoire sur les armées d'Égypte à la mer Rouge, bien, elle entraînait les filles d'Israël à des chœurs avec son tambourin. Et là, la vanité a gagné leur cœur et ils ont murmuré contre Moïse. Et Dieu les a appelés, Dieu les a convoqués dans la tente d'assignation. Et il a pris la défense de Moïse. Dieu a pris la défense de Moïse. Dieu a pris la défense de son serviteur et il a dit, voilà, bien, Marie sera frappée de lèpre. Et quand ils sont sortis de cet entretien, elle était frappée de lèpre. Alors Moïse, n'est-ce pas, a intercédé pour elle. Et en réponse à la prière de Moïse, Dieu a guéri Marie. Car Dieu est capable de venir, n'est-ce pas, à bout et d'apporter non pas un remède, mais le remède à la question du péché. On pense aussi à Naaman, nous en avions parlé tout à l'heure, ce général syrien, qui, malgré toute sa bravoure et sa vaillance, a dû faire appel au prophète Élisée sur les recommandations de cette petite fille. Elle avait été faite captive sur un champ de bataille et elle a simplement rendu ce témoignage. Ah, si mon Seigneur était en Israël, il irait vers le prophète et le prophète le guérirait de sa lèpre. Alors ça a fait son chemin, Naaman suscite l'entrevue, Élisée ne le reçoit pas même en personne, il lui dit « Plonge-toi cette fois dans l'eau du Jourdain, ta chair redeviendra pure ». Il est prêt à partir, mais à nouveau, cet homme qui exerce tant de responsabilités va recevoir un conseil d'un humble serviteur qui lui dit « Mais voilà, fais-le, si on t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, fais-le ». Il se plonge cette fois dans le Jourdain, il ressort, il est pur. Puis on pense aussi, bien sûr, à ce lépreux que le Seigneur a guéri, on le voit, notamment dans les premières pages de l'évangile de Marc, dans les environs de Capernaum, cet homme rempli de lèpre, il vit seul, et entendant que Jésus passe, il se jette à ses pieds, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, tend la main, le touche, et il le renvoie la chair pure comme celle d'un jeune enfant. Dieu est capable de guérir la lèpre, Dieu est capable d'apporter une réponse, il apporte en Christ une réponse au problème du péché. Alors, Dieu agit, mais pas n'importe comment. Et dans le livre du Lévitique, on sait bien que tout ce qui est écrit, hein, comme dans toute la loi de Moïse, a avant tout comme but de rendre témoignage de Christ, sa personne glorieuse et son œuvre. Et tout ce qui figure dans ce livre du Lévitique, même si ça nous paraît parfois ardu, bien, il y avait un but, il y avait une raison. Et cette raison, c'est que Dieu nous parlait au travers toutes ces choses de Christ. Il y a dans la loi de Moïse l'image et l'ombre des choses à venir, et c'est en Christ hein, que ces choses sont venues. Alors, qu'est-ce qu'il fallait ? Dieu avait dit, il faut que pour qu'il y ait purification de la lèpre, il faut d'abord qu'il y ait deux oiseaux. Deux oiseaux vivants et purs. Et ce détail, vivant et pur, ça nous parle de Christ, ça. Hein, tout dans le rite de la purification du lépreux va nous parler de Christ. Pur parce que le Seigneur est pur en pensée, en acte, en parole. Il est parfait pour l'éternité. Et il fallait que sur ces deux oiseaux, l'un soit égorgé. Vous voyez, ça devait être terrible pour le lépreux, même lorsqu'il sentait qu'il était en voie de guérison, bien d'apporter là au sacrificateur un oiseau. Dieu n'a jamais pris plaisir à la cruauté, certainement pas la cruauté envers les animaux. Et cet oiseau qui devait être apporté, peut-être une colombe, ce bel oiseau innocent, eh bien on devait lui ouvrir la tête et le sang de cet oiseau devait être versé Il devait être mis à mort sous les regards du lépreux, par le sacrificateur. Certainement, le lépreux réfléchissait et se disait, c'est à cause de moi, hein, que cet animal innocent, là, il est livré à la mort, que le sang de cet oiseau innocent coule. Eh bien, ça nous parle de Christ. Il est l'agneau de Dieu, la victime innocente, qui a versé son sang pour mes péchés et pour les vôtres. Vous voyez, il y avait besoin que ce sacrifice intervienne, car le salaire du péché, c'est la mort. Le pardon de Dieu effectif ne pouvait intervenir sans que la mort de Christ intervienne. Il s'est offert, lui, le juste, pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il est l'agneau pascal, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Puis, voilà, le sang de l'oiseau devait être versé dans un vase, sur de l'eau vive, et puis ensuite, il fallait y tremper. Il fallait y tremper quoi ? Il fallait y tremper un peu de cramoisi. Là aussi, ça nous parle de la couleur du sang, du sacrifice. Un peu de bois de cèdre, un peu d'hysope, et le deuxième oiseau. Il était trempé là, avec tout ça, et hop, il était ensuite lâché, il était ensuite relâché, cet oiseau, et il s'envolait vers le ciel. Et on imagine la joie, hein, de ce lépreux. Voilà, il y avait cette peine de voir qu'un oiseau mourait, mais quand il voyait cet oiseau s'élever vers le ciel, il se disait, voilà, c'est le début de la fin pour moi, je vais enfin être déclaré pur. Cette condition que j'ai portée, bien, j'en suis débarrassé, elle est comme emportée, elle s'envole. Vous voyez, c'est ce que Dieu voulait produire, et ce deuxième oiseau, il nous parle de quoi ? Il nous parle de la résurrection du Seigneur. Vous voyez, il y a l'oiseau égorgé, puis il y a l'oiseau vivant qu'on lâche, et dont la puissance de la vie va se manifester en ce qu'il s'envole vers le ciel, d'où il est venu. Bien, ça nous parle. Vous voyez, ces deux oiseaux nous parlent de Christ. L'œuvre de Jésus-Christ est tellement efficace et riche qu'il faut parfois plusieurs symboles, plusieurs représentations pour nous parler de tout ce qu'il a fait, de toutes les conséquences de son œuvre pour nous. Et il était nécessaire que Christ meure pour nos péchés, mais il était également tout aussi nécessaire qu'il ressuscite. Voilà pourquoi il est écrit que Christ a été livré pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. Et, ayant emporté en lui dans sa mort ce que nous étions, lorsque nous étions sans Dieu, sans lui, eh bien, il nous ressuscite en lui et avec lui. Hein, il y a d'abondants textes du Nouveau Testament qui nous révèlent cette réalité. Donc deux oiseaux. Et puis, pourquoi ce bois de cèdre ? Pourquoi de l'hysope ? On ne peut pas tout expliquer toujours. Mais regardez, si vous le voulez, on peut se rendre dans le premier livre des rois. Il y a ce texte intéressant. Dans le premier livre des rois, au chapitre 4 et au verset 33. Premier livre des rois, chapitre 4, verset 33. Voilà. Il nous est parlé ici du roi Salomon, hein, qui était un roi extrêmement sage, un savant. Et voilà ce qu'il nous est dit de Salomon. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le roi Salomon, non content d'être sage, d'une sagesse divine, en tout cas pendant une première partie de sa vie, c'était aussi un savant, il s'intéressait aux choses de la nature, il reconnaissait la main de Dieu dans ses œuvres, dans la création, et il s'intéressait notamment aux arbres et à la botanique. Et il nous a dit qu'il a parlé sur les arbres, il a écrit en quelque sorte des traités de botanique, hein, Salomon, et il l'a fait sur tous les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Ça veut dire depuis le plus grand de tous les arbres, c'était le cèdre, hein, c'était le cèdre du Liban, jusqu'au plus petit. L'hysope qui sort de la muraille, c'était la plus petite des plantes qu'on pouvait concevoir. Et bien sûr, ça nous parle aussi de Christ. Le cèdre nous parle de Christ dans sa grandeur. Il est, nous dit l'Écriture, le plus élevé des rois de la terre. Il est le roi des rois. Il est Dieu. Et toutes choses lui sont soumises, tout pouvoir lui ont été donné dans le ciel et sur la terre. Et c'est ce sauveur auquel Dieu a pourvu. C'est ce sauveur que Dieu a ressuscité. Voilà ce dont nous parle aussi la victoire de Pâques. Et puis, il est aussi l'hysope Il est aussi l'hysope pour accomplir son œuvre de salut. Il a dû s'humilier, existant en forme de Dieu. Il n'a pas regardé comme une proie arracher son égalité avec Dieu, mais il s'est humilié lui-même en paraissant comme un simple homme. Il a pris une forme de serviteur. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voilà, quelle humiliation. Quelle humiliation. Mais ce sacrifice était nécessaire pour que nous puissions obtenir la purification de nos péchés. Le Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous, il peut encore sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, parce qu'il est encore vivant pour intercéder en leur faveur. Alors, c'est vrai ce matin pour quelqu'un qui serait entré dans ce lieu de culte avec, n'est-ce pas, le fardeau de sa condamnation, des interrogations par rapport à la mort, par rapport à la vie. Vous êtes chargé, vous faites le bilan de votre vie et vous reconnaissez que oui, il y a eu dans votre vie des faux pas, des erreurs, des manquements graves à la loi de Dieu, des choses que vous n'osez pas avouer à qui que ce soit, même vos plus proches, vous n'en avez pas parlé, mais vous sentez ce besoin d'en être purifié et lavé, bien le pardon se trouve auprès de Dieu, afin qu'on le craigne, qu'on le connaisse, parce que Dieu a pourvu en Christ un sacrifice glorieux qui nous ouvre le ciel, qui règle la question du péché. Vous êtes un peu comme ce lépreux, vous voyez, en Israël, et vous avez besoin d'une intervention divine, elle s'obtient en plaçant une confiance inébranlable dans le témoignage que la Bible rend à Jésus-Christ. Il s'est chargé de nos péchés, les a portés en son corps sur le bois, et il est ressuscité pour que ce sacrifice puisse être efficace, que sa vertu soit expérimentée par vous, et qu'un peu comme ces hommes, cette femme, Marie, dont nous avons parlé, bien vous puissiez être débarrassés de cette souillure et ce poids du péché. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et on termine avec cette dernière pensée, elle est importante. Pour que la purification du lépreux ait lieu, bien vous avez vu que Dieu avait tout mis en œuvre, mais il fallait quand même que certaines conditions soient remplies. Il fallait quand même que certaines conditions soient remplies, je dirais, dans la personne du lépreux. Notamment, il y avait une condition indispensable. Alors ça peut sembler bizarre, mais nous l'avons lu. Il fallait que sur le corps du lépreux, quand on l'examine, quand le corps du lépreux passait devant, sous l'examen du sacrificateur, eh bien, la lèpre devait absolument avoir gagné toute la peau. Toute la peau devait être devenue blanche. S'il restait là une trace de chair vive sur le corps du lépreux, il n'était pas question de le déclarer pur. Malgré tout ce que Dieu avait prévu, malgré tout ce que Dieu avait mis en œuvre, on ne pouvait pas prononcer sur lui cette réalité de la purification et de la guérison. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ça signifie que pour que Dieu puisse agir et intervenir dans la vie d'un pécheur, bien, il faut reconnaître pleinement notre péché. Il ne faut pas qu'il reste des zones où le péché n'est pas venu à la surface, vous voyez. Il ne faut pas qu'il reste dans notre vie des endroits où nous n'avons pas laissé l'œuvre de Dieu se faire, de telle sorte qu'il y a encore une partie du péché que nous gardons pour nous. Parce que dans ce cas, il ne peut pas y avoir de purification. Il faut que tout soit venu à la surface. Il faut que... Un homme de la Bible a pu dire, mais voilà, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Il ne peut pas prospérer. Il les cache, il les conserve, continue à les pratiquer, il demeure attaché à elles et il rend par là le pardon impossible. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse, il obtient miséricorde. Il y a cet extraordinaire verset de... la première épître de Jean qui dit, voilà, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous mentons, nous ne pratiquons pas la vérité. Si nous permettons, n'est-ce pas, à Dieu de nous convaincre, mais que sur tel ou tel domaine de notre vie, nous résistions à son action, nous résistions à sa conviction, le pardon n'est pas possible. Mais si nous confessons nos péchés, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà, béni soit Dieu pour la conviction de sa parole qui, même dans le cœur des chrétiens que nous sommes, révèle de jour en jour des attitudes, des mobiles, et je ne sais pas, hein, qui ne sont pas à la gloire de Dieu. On sait bien de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut les amener à la surface. Hein, que tout le corps devienne blanc, là, Voilà. Et qu'importe, même, voyez, si on se rend compte que finalement on est lépreux, c'est vrai ça. Seigneur, voilà ce que je suis. Voilà ce que je suis. Je ne cherche pas à me le dissimuler, je ne cherche pas à te le cacher. Je t'apporte ces choses. Seigneur, lave-moi dans le sang précieux de Jésus. Et puis, ça nous montre aussi ça que les efforts humains, eh bien, ils ne peuvent pas gagner la faveur de Dieu. La chair vive, ça nous parle de ce qui vient de la chair. Hein, et la chair n'héritera pas le royaume de Dieu. Ce n'est pas nos efforts, même pour nous améliorer, même pour nous changer, qui vont amener quoi que ce soit. C'est simplement le fait de se confier pleinement dans la grâce de Dieu, celle qui est extérieure. Le corps du lépreux devait devenir parfaitement blanc. Et une toute dernière pensée sur ce dernier point, vous avez remarqué qu'après que la guérison a été prononcée, bien, il y avait quand même une dernière étape. Le sacrificateur déclarait le lépreux pur, et celui qui se purifiait lavait ses vêtements, il rasait tout son poil, et il se baignait dans l'eau. Et après seulement, toutes ces choses, il pouvait rentrer dans le camp. Alors, il devait raser son poil. En quoi c'est important, ça? Le poil, c'est ce qui vient de la chair. Hein, c'est ce qui procède de la chair. Et il fallait raser tout ça. Il fallait raser tout ça. Ça nous montre quoi? Ça nous montre que, bien après avoir reçu le pardon et avoir été purifié par le Seigneur, bien, il faut veiller. Il faut veiller à ce que notre chair, à nouveau, ne produise pas tout ce qui vient de nous. Et on sait bien ce qui vient de nous. Hein. Il nous est dit dans le Nouveau Testament, dépouillez-vous de ce que vous étiez. Dépouillez-vous du vieil homme, de ses œuvres, parce que vous avez reçu Christ. Dépouillez-vous. Et en tant que chrétien, quand vous êtes encore saisi par le désir là, de vous mettre en colère, quand vous êtes saisi par le désir de pratiquer ce qui est condamnable, bien, non, vous avez le pouvoir de dire non. Et revêtez-vous des sentiments de Christ. Ça, c'est le lépreux qui rase son poil, ça. Et il devait se plonger dans l'eau. Mais pourquoi? Parce que ça nous parle des soins que Christ prodigue à son Église et aux siens, après les avoir initialement purifiés par son sacrifice. Il nous a dit que Christ a aimé l'Église, et ceci afin de la sanctifier en la lavant et en la purifiant par l'eau de la parole. C'est la parole de Dieu qui nous lave. Elle nous a révélé celui par qui nous avons le pardon et la paix, bien, de jour en jour, en la lisant, en y réfléchissant, en la méditant, bien, nous la laissons produire en nous une œuvre de bénédiction. Elle nous lave. C'est le prolongement de la Pâque. Le prolongement de la Pâque. Célébrez donc la fête, non avec le vieux levain, de la méchanceté, etc. Mais voilà, vous êtes sans levain. Car Christ, votre Pâque, a été immolé. Et ensuite, il y a toute une fête qui se célèbre, bien, sans levain, avec l'eau de la parole qui nous lave. Que le Seigneur nous bénisse richement, nous permette de trouver dans cette parole qui continue à œuvrer en nous la force de croître et de progresser ensemble. Voilà, on peut se recueillir et bénir le Seigneur.